Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énerver la Suite France Inter Plus de Monstre Sacré du Cinéma. Ce soir, deuxième épisode de la série Écoutez le Cinéma, la masterclass de John Travolta enregistrée pendant le Festival de Cannes. C'était en 2018 sous la direction du journaliste Didier Allouche, le correspondant Frenchy de Canal Plus à Hollywood. Alors bien sûr, John Travolta revient sur sa filmographie, son expérience avec Quentin Tarantino dans Pulp Fiction qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Mais il évoque aussi Grease, énorme succès, et raconte notamment que Benicio del Toro, un jour, l'aurait pris à part pour lui confier qu'à 12 ans, il avait vu le film 14 fois au cinéma et que c'est comme ça qu'était née sa vocation d'acteur. Travolta raconte aussi ses échecs, la traversée du désert et comment il a fait face. Je le cite, « L'imprévisible fait partie de la définition même de ce métier. Donc, les périodes de creux, au lieu de les voir comme un mal, il faut les voir comme le champ des possibles qui s'ouvre et de tout ce qui peut arriver de nouveau. » Plus de Travolta, Night Fever sur France Inter.
Je suis honoré pour être là.
Comme nous sommes à Cannes, je vais me référer à ce qui s'est passé en mai 94. Quelle expérience a été pour vous de découvrir ce film? Est-ce que ce soir-là, vous étiez conscient qu'il y aurait un avant et un après dans votre carrière professionnelle? Avant et après Vincent, avant et après Tarantino, avant et après Pulp Fiction. Est-ce que vous en étiez conscient sur le coup? Je ne pense que personne n'avait la moindre idée de l'ampleur qu'aurait le lancement que le Festival de Cannes a fait de ce film. Pour nous, on s'est dit que c'était un petit film d'auteur qui aurait un public assez ciblé, qui ne serait pas international. Et quand nous étions là et que nous avons gagné la Palme d'Or, ça a tout de suite donné une autre ampleur. Quelque chose qui déjà était un tournant dans l'histoire du cinéma et dans mon histoire personnelle. En effet, il y a le prix, mais il y a aussi les réactions qu'il y a eu dans la salle. Il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est passé ce soir-là. Et bien sûr, chaque projection a eu quelque chose de très particulier. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti qu'il se passait quelque chose, que vous découvriez à la fois un nouveau cinéaste, mais une nouvelle façon d'être acteur? Oui, complètement.
There's a term, terra incognita. It was territory that was not.
Terra incognita. C'était pour moi un territoire vierge. Et ce film a permis à ce nouveau territoire d'être découvert par les réalisateurs, par le public, parce que la pop culture qui était associée à ce film était complètement à découvrir. C'est un peu ce que Truffaut a pu représenter dans le cinéma français. Là, c'était une version un peu plus commerciale, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit plus quelque chose qui s'apparente au cinéma d'Agnès Varda. Je ne m'attendais pas à ça. Mais comment est-ce qu'il était sur le plateau? Est-ce que Quentin était très différent de ce dont vous aviez l'habitude? Il était comme tous les grands réalisateurs.
From my perspective,
de mon point de vue, tous les grands metteurs en scène ont quelque chose de commun qui est la confiance qu'ils accordent à l'acteur qu'ils ont choisi. Et ça, j'ai entendu un certain nombre de metteurs en scène le dire, c'est pas moi qui fais des élucubrations. Tous les grands auteurs font leur travail avant de choisir la destinée que prendra le film. Ils le font en choisissant l'acteur et en lui accordant leur confiance. Et Quentin m'a toujours considéré comme un acteur imprévisible. Il me disait, mais si j'avais voulu quelqu'un de plus prévisible, c'est pas toi que j'aurais choisi. Je ne sais pas ce que tu feras de ce rôle, mais j'ai envie de plonger dans cette aventure et de te laisser faire. Et cette confiance, je l'ai sentie de la part de Mike Nichols, de la part de John Woo, de la part de Robert Altman. Avant de se lancer avec quelqu'un, ils savent à qui ils ont affaire, donc ils ne s'inquiètent plus du cours que prendra le film. C'est plutôt la vision qu'ils veulent donner au film qui prend toute leur concentration. Il ne faut jamais participer à un projet de film si le réalisateur n'est pas éperdument amoureux de vous, s'il ne tient pas à tout prix à vous avoir, s'il n'est pas persuadé que vous donnerez une dimension supplémentaire à votre, à son film. Et s'il n'y a pas ce lien-là, il y a quelque chose qui se perdra forcément. Cette déperdition est inévitable. Et ça, c'est, il me semble que les meilleurs, le meilleur travail d'acteur que j'ai pu faire, c'est quand le réalisateur voulait vraiment m'avoir. Est-ce que c'était le cas dans La Fièvre du samedi soir? Oui, c'est devenu, en fin de compte, le cas de ce film. Il se trouve que le réalisateur était texan. Lui ne n'était pas de New York. Et donc, moi, je connaissais le terrain mieux que moi. Et donc, il m'a utilisé de cette façon-là pour que je le guide, que je l'accompagne sur ce terrain. Et moi, je lui ai donné cette confiance que je pouvais m'occuper de lui et de moi. Vous étiez très jeune à l'époque. Oui, j'avais 3 ans, en effet. J'avais l'air un peu plus vieux, mais... C'est devenu un phénomène. Tony Manero est une icône pour une génération tout entière. Comment est-ce que vous avez vécu avec cette célébrité, avec le phénomène qui est devenu ce film?
À
l'époque, j'étais déjà connu pour un programme télévisé et donc je m'étais déjà familiarisé avec la question du succès. Et donc, au moment où c'est arrivé, j'avais déjà une certaine aisance sur cette question et il se trouve que petit à petit, j'ai pu m'y faire. Je ne dois pas dire que ça a été très difficile de me... de m'acclimater à ça et je ne peux pas m'en plaindre. Est-ce qu'à l'époque vous vous rendez compte à quel point c'était un bon film? Parce que moi, en le revoyant maintenant, c'est ce que je me dis, que c'est en quelque sorte à l'est d'Éden pour l'époque. Est-ce que vous aviez conscience de tourner un si grand film? De nouveau, je peux rapprocher de Pulp Fiction parce que j'avais l'impression qu'on traitait d'une tranche de vie et que ça ne nous élèverait pas à un niveau supérieur à ça. Et le fait que ça devienne un phénomène culturel était quelque chose d'imprévisible. Vous êtes devenu le danseur, l'acteur le plus connu du monde. Et ça, ça vous allait comme statut. Mais oui, pourquoi pas.
Live des Bee Gees et l'on retrouve tout de suite la masterclass de John Travolta, John Travolta qui bien sûr dansait sur ce titre.
La scène de danse, je m'étais vraiment entraînée. J'avais répété de septembre à février presque chaque jour. Donc la danse, c'est ce qui m'a demandé le plus de travail, alors que le jeu d'acteur, c'est quelque chose que je connaissais depuis l'âge de 12 ans, donc je me sentais plus à l'aise. Mais puisqu'il n'y avait plus de danse, il fallait que je sois crédible en tant que danseur, un danseur de Brooklyn. Et oui, ça, je peux vous dire que vous étiez crédible. Peut-être que nous avons oublié à quel point c'était un film désespéré et sombre, mais vous avez basculé ensuite dans Grease, qui était un film beaucoup plus amusant, beaucoup plus drôle. Où est-ce que vous avez pris le plus de plaisir entre ces deux films? J'ai adoré les deux expériences. Je pense que finalement, quelque chose a changé pour toujours dans ma carrière à partir de ce phénomène qui a été Grease. Qui est un cadeau éternel. J'ai encore aujourd'hui des enfants de 5 ans qui m'en parlent comme si on l'avait tourné hier. Ça, c'est très étonnant. Évidemment, quand vous voyez Autant l'emporte le vent, vous savez qu'il y a des films comme ça qui traversent les époques. Mais Grease, on ne s'y attendait pas. Et c'est intéressant de voir comme ce film n'a pas vieilli, comme on le voit toujours avec plaisir. Benicio del Toro, que vous connaissez tous. Nous avons fait Savages ensemble. Et un jour, il m'a pris à part et il m'a dit, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai dit, ah bon, vas-y. Il m'a dit, quand j'ai 12 ans, j'ai vu Grease 14 fois au cinéma. Et c'est comme ça qu'est née ma vocation d'acteur. C'est incroyable, quelqu'un de si puissant, de grave que Benicio. Benicio, vous ne vous diriez pas que sa vocation a été suscitée par Grease.
Vous
êtes un homme chanceux, puisque à travers ces deux films, on a vu l'étendue de vos capacités d'acteur. Et est-ce qu'après, on a encore utilisé ce potentiel que vous aviez? En effet.
I think in New York when you grew up in the
New York, quand vous avez grandi dans la profession, c'est assez facile puisqu'en fait il faut que vous viviez de votre art. Et donc quand vous savez à la fois jouer, chanter et danser, vous donnez trois possibilités de gagner votre croûte. Comment tu pouvais croire en choisissant ce métier que tout serait prévisible? L'imprévisible fait partie de la définition même de ce métier. Et donc les périodes de creux, au lieu de les voir comme un mal, il faut les voir comme le champ des possibles qui s'ouvre et de tout ce qui peut de nouveau vous arriver. Et c'est ça qui vous permet d'avancer.
Mais avec Quentin Tarantino, le grand comeback correspondait vraiment à une qualité d'acteur. Donc ce n'est qu'avec Pulp Fiction qu'on a vraiment eu l'impression que je faisais mon comeback. Réinventer. Voilà, ça c'est ce que je fais car ma personnalité m'ennuie beaucoup. Ce n'est pas que je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, non, je me trouve OK. Mais j'apprécie beaucoup plus la création de personnages, surtout s'ils se comportent à différents niveaux, ne serait-ce que physiquement, verbalement, ils ont des apparences différentes. Voilà, c'est ça qui me plaît. Être moi-même, ça m'ennuie. Mais être avec d'autres personnages, j'apprécie, je pourrais faire cela sans arrêt. Est-ce que ça vient de vos films des années 80 où vous avez refaçonné votre corps pour correspondre au personnage? Non, ça vient en fait de ce que le personnage impose. Lorsqu'on est acteur, il y a certaines règles à respecter. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de règles. Je pense qu'on a tous notre propre technique en tant qu'acteur. J'ai le sentiment qu'on n'a pas à aimer un caractère, un personnage, on n'a pas non plus à être d'accord avec lui pour incarner ce personnage. Il y a très peu de personnages avec lesquels je m'identifie, mais peu importe, c'est mon travail, je suis là pour incarner ces personnages. C'est une question de simplicité. Une fois qu'on a décidé la façon dont on va travailler, ça vous libère de beaucoup de soucis lorsque vous vous demandez si vous pouvez incarner ce personnage. Non, il n'y a pas besoin de l'aimer, il faut l'incarner. Comme dans Pulp Fiction, je savais que je pouvais jouer ce personnage, mais ce n'est que lorsque j'ai eu les cheveux coupés de cette façon, avec une boucle d'oreille et ces mouvements qu'il avait et qui étaient lents, qu'enfin j'ai pu rentrer dans son corps et être à l'aise dans mon jeu. Vous parliez de Pulp Fiction tout à l'heure. Avant ce film, vous étiez vraiment cool à l'écran. Et après, vous avez été cool pour l'univers entier. Quelles ont été les conséquences de Pulp Fiction pour vous? Est-ce que ça vous a aidé à travailler avec des réalisateurs comme Terrence Malick, par exemple? La conséquence directe, immédiate de Pulp Fiction est que j'ai pu choisir les films que je souhaitais, dans lesquels je souhaitais être, choisir les réalisateurs. Cela a eu un impact important. Beaucoup plus que l'explosion de Grease. L'explosion de Pulp Fiction m'a donné énormément de choix.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Alors parlons des risques dans votre carrière. Vous n'hésitez pas à jouer avec de jeunes réalisateurs. Il y a aussi In the Valley of Violence. Vous n'hésitez pas à jouer avec des réalisateurs jeunes. Est-ce que vous avez besoin de cela? Effectivement, parce que tout tourne autour de la passion. Un jeune réalisateur a souvent plus de passion que les réalisateurs expérimentés. Peut-être qu'il y a dans ces jeunes réalisateurs un Quentin Tarantino. Peut-être il y a quelqu'un qu'on peut aider à arriver à un niveau plus élevé. Moi aussi. C'est un risque, mais j'accepte le risque. Comment vous choisissez tous ces risques? Bien sûr, il y a toujours un risque à évaluer. Mais parallèlement, si vous avez une vision, si le réalisateur a une vision, dans son esprit, il y a les idées claires à ce sujet, il y a un effet, il faut trouver une cause. Alors peut-être pouvez-vous l'aider à faire avancer. Il ne va peut-être pas réussir, le plus jeune, alors qu'un professionnel expérimenté, lui, aura plus de moyens d'y arriver. Vous avez beaucoup travaillé avec John Woo. Volte-face, c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir.
What did you? How was the experience with him? I mean,
parlez-nous de ce film.
As I said earlier, he trusted. He,
comme je l'ai dit,
wanted you in a movie because he believed that you could do what you
needed
to do.
Il nous confiait des rôles parce qu'il y croyait. Brian De Palma m'a dit un jour une chose très intéressante avec Blowout.
Now I could, Brian, I could give you three choices here. I could do it like this.
Il m'a dit voilà, tu as trois possibilités. Premièrement, deuxièmement, troisièmement.
Il me dit,
on te paie beaucoup pour que tu décides ce que tu veux faire de ces trois possibilités. C'est à toi de décider. Ah bon, vraiment? Mais John, je te fais confiance. Tu peux choisir entre ces trois possibilités. Bon, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et j'ai toujours gardé ça à l'esprit depuis le début des années 80, parce que j'ai réalisé que c'est mon travail. Son travail, c'est la vision du film. Mon travail... c'est le personnage, un personnage que le réalisateur peut utiliser. Et moi, j'ai une responsabilité pour le personnage. Même chose, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de Face Off, John nous faisait confiance. C'est très difficile à faire, confiance, parce qu'il ne savait pas vraiment qui j'étais.
He said, "I don't see you anywhere."
Il a regardé comment il a regardé les différents films que j'ai faits. Il m'a jamais vu moi. Et ça, c'est difficile. Il regarde ce que je fais au quotidien pour que ça fasse un tout.
You kind of playing on the dynamic with the other actors.
Vous jouez de façon assez dynamique avec les autres acteurs. On s'en aperçoit quand on voit vos films. Par exemple, avec Sam Jackson dans Pulp Fiction ou Nick Cage dans Face Off. Mais avez-vous besoin de la réaction des autres acteurs? Est-ce que ça vous aide? Oui, je réagis beaucoup aux autres acteurs. Je suis vraiment dans le moment présent. Et si un acteur fait quelque chose qui ne va pas m'aider à créer un effet que j'espère créer, alors je lui demande de modifier quelque chose légèrement. Récemment, j'étais avec un autre acteur et on était sur la même longueur d'onde. Mais je lui ai dit, tu sais, moi tout de suite, je suis triste. Mais si toi, t'es triste aussi, moi, j'ai plus rien à jouer. Donc, est-ce que tu peux faire, est-ce qu'on peut faire deux prises où t'es un peu moins triste et ça va m'aider, moi, à être plus triste? C'est assez facile d'empiéter sur l'espace de l'autre. Donc, Donna Pascoe, par exemple, est venue me voir et lorsque je la quitte comme partenaire de danse, il faut qu'elle pleure. Elle ne savait pas trop comment pleurer, donc elle a commencé à pleurer avant de me rencontrer. Je lui ai dit, tu sais, Donna, je vais te dire un truc. Toi, tu ne sais pas que je ne vais plus vouloir danser avec toi. Alors, arrive en étant heureuse. Sois heureuse en pensant qu'on va danser ensemble, on va peut-être faire l'amour aussi, on va peut-être sortir ensemble, tu vas être une petite amie, et d'un seul coup, je vais t'envoyer à la figure que je ne veux plus danser avec toi. Et là, je te garantis que tu vas pleurer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a très bien marché, et je lui ai envoyé ça à la figure, et là, d'un seul coup, elle s'est mise à pleurer. Donc, on peut vivre le moment présent en tant qu'acteur si tout est bien orchestré. Et c'est très important pour les acteurs de communiquer entre eux de façon à former une équipe et qu'ensemble on crée un certain effet. Car il n'y a que deux personnages dans une scène, ou trois ou quatre, s'il y en a plus, c'est plus complexe. C'était agréable, oui, c'est toujours agréable, j'aime les acteurs. Simpson, O.J. Simpson. Pour revenir à la télévision, est-ce différent de travailler à la télévision? Est-ce que vous pensez que la révolution télévisuelle d'aujourd'hui a changé le travail des acteurs? Les acteurs n'hésitant plus à passer de la télévision au cinéma et vice-versa. Les choses ont effectivement beaucoup changé. Je pense que des histoires qui sont contées en 10 heures au lieu de 2 heures, si la communication est d'une qualité suffisante, c'est intéressant. Ce n'est peut-être pas aussi bon pour nous parce que nous avons l'habitude de travailler pour le grand écran. Ce type de film est peut-être moins demandé et nous essayons de de rester dans le même genre, dans le même format, c'est-à-dire le grand écran, même avec Gotti. C'est le genre de film qui m'a rendu célèbre. Mais ce sont des œuvres d'art de toute façon. Tout est une affaire de qualité artistique, peu importe le format, le support, que ce soit dans une salle de théâtre, le cinéma, la télévision, peu importe. Les vieilles règles, si on a fait de la télévision, on ne peut pas être au grand écran, si on fait du théâtre, on ne peut pas faire de film, etc. Tout ça, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Même à Broadway, dans ma jeunesse, je voyais des gens de grands talents à Broadway et dans des salles de théâtre. Ou dans des films amateurs ou des films des studios, des grands studios. Peu importe. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.
You Never Can Tell, signé Chuck Berry, une chanson écrite alors qu'il était en prison pour une affaire de mœurs, une chanson qui fait partie de la bande originale du film Pulp Fiction. Retour avec John Travolta, sa masterclass France Inter Plus de cinéma ce soir. Star hollywoodienne mais aussi cinéphile, fan de Bergman et de Fellini, John Travolta évoque ce souvenir. Il a 5 ans, il est bouleversé par le film La Strada et il s'effondre quand il voit mourir Giulietta Masina. Et c'est à ce moment-là que l'art du cinéma lui aurait été révélé.
Qu'est-ce que vous pensez du mouvement MeToo et de tout ce qui se passe sur les questions de parité à Hollywood et ailleurs? Franchement, je ne sais pas quoi en dire parce que moi, l'égalité entre hommes et femmes, entre les races, les cultures, j'ai baigné là-dedans. Mon père avait une vision très belle de, où il ne faisait pas de distinction entre les peuples. Moi, je suis un citoyen du monde, de la planète. Et je ne crois pas à ces distinctions.
It's true, and I want us all to be citizens. And
division, que nous soyons
it's a dangerous thing.
Tous des citoyens du monde. Je pense que les séparations et les divisions
when you have no other way to go, you protest stuff. And sometimes it's valid.
Mauvaise et les protestations et se soulever de cette façon-là contre un phénomène, c'est toujours un dernier recours. Bien sûr que contre la guerre du Vietnam, il fallait protester, se soulever. Mais comment est-ce qu'on mesure la limite à partir de laquelle cette protestation est excessive? C'est un art d'arriver à trouver à quel moment est-ce qu'il faut s'arrêter pour ne pas aller trop loin. Il faut utiliser ce moyen qu'est la protestation de façon extrêmement délicate et intelligente. De tous les rôles que vous ayez eu à incarner, quel est celui qui vous a le plus renforcé dans votre choix de devenir acteur? Que ce soit au théâtre ou au cinéma. J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans, donc la décision, la vocation, elle est quand même très éloignée. Je vais vous donner une réponse quand même plus précise, même si ce que j'ai dit est vrai en général. Mes parents adoraient Bergman et Fellini, et moi j'ai vu La Strada. Et quand j'ai vu Giulietta Masina dans ce film, j'étais effondré. Quand elle est morte, je me suis dit, j'ai dit à mon père, mais pourquoi elle est morte? Et j'avais 5 ans. Et elle est morte de chagrin. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut mourir de chagrin? Et j'ai compris que c'était possible, qu'on peut mourir de chagrin. Rien que pour ça, j'ai décidé de ne jamais briser le cœur de personne, mais l'art du cinéma m'a été révélé à ce moment-là. Et je suis devenu un cinéphile. Donc je suis dans une situation assez contradictoire parce que j'ai fait des films plutôt populaires et pourtant les films que j'ai toujours aimés en tant que spectateur sont des films qui ont moins de succès populaire. Cri et chuchotement de Bergman est un film que j'ai adoré très jeune et Le Septième Sceau, La Dolce Vita, La Strada, ça, ce sont des films qui m'ont beaucoup marqué dans la vie.
There you go. But you get the idea is that from an early age, I understood the impact of performance.
J'ai pris conscience de l'impact du jeu d'acteur et ce que ça pouvait entraîner, quel effet ça pouvait avoir sur le public.
Of the depth that she was recognized at 5 years old. Later, I found out she won an Oscar for that performance.
Je suis par la suite qu'elle a porté un Oscar, qu'elle a emporté un Oscar avec ce film, et moi je lui avais déjà donné mon Oscar personnel quand j'ai découvert le film avec mon père.
Merci beaucoup pour votre présence et votre énergie qui nous nourrit.
Je vous en prie.
Et ma question, surtout parce que j'ai été vraiment touché par vos conseils sur le jeu, comme quoi il suffisait d'avoir confiance en le fait de pouvoir faire le portrait d'un caractère et non pas l'aimer ou s'identifier à lui. Et donc ma question, c'est vraiment pour un comédien qui commence dans le cinéma, est-ce qu'il vaut mieux jouer des personnages qui sont proches de nous-mêmes ou des personnages très éloignés? Et de manière plus générale, quels sont vos conseils aux personnes qui commencent à se lancer dans le cinéma?
Il faut jouer ce qui vous amuse le plus. Est-ce que ça vous amuse de jouer quelqu'un qui est proche de vous ou quelqu'un qui est... C'est comme ça que se construit la confiance. Moi, j'aime bien jouer des gens qui sont très différents de moi, mais ça, c'est mon goût. Je connais des gens qui adorent jouer des personnages proches d'eux parce qu'ils se sentent plus en confiance. Idéalement, il faut avoir la capacité de faire les deux et de mélanger.
When I play myself, I'd rather play something that's closer to my sentiment as a human being.
Je préfère jouer
phenomenon that I identified with.
Dans Phenomenon, qui est un film dans lequel je me suis retrouvé, où je me sens sur le plan affectif assez proche du personnage. Mais je pense que c'est vous qui pouvez savoir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous procure le plus de plaisir. Mais puis, il ne faut pas prendre ce métier trop au sérieux. Amusez-vous, éclatez-vous, parce que sinon, franchement, ça ne vaut pas le coup. Il s'agit juste de jouer. Quelqu'un m'a dit un jour, comment vous faites pour pleurer si facilement? Parce que moi, je suis là, je m'éclate et je peux basculer de là à un niveau moindre, j'ai le moral à zéro. Il s'agit vraiment de s'amuser. Marlon Brando était un des types les plus rigolos que vous pouvez imaginer. Lui aussi, il s'amusait. C'était un des plus grands acteurs du cinéma. Donc, éclatez-vous, faites ce que vous aimez et commencez là. Et petit à petit, le courage viendra et vous vous aventurerez dans d'autres expériences.
Well, I have the microphone.
Sure, go ahead.
Oh, my question was about your voice. I love everything.
Une question sur votre voix. J'adore votre travail, mais vous avez cette voix très étonnante. Donc, je me demandais ce que vous avez particulièrement travaillé. Votre voix, même quand vous parlez comme ça ou dans les films, est-ce que vous travaillez particulièrement votre voix?
Oui, bien
sûr. Je considère que chaque personnage a une texture vocale particulière.
And that's part of the building of a character.
Et ça fait partie de la création du personnage. Je pense que les premiers pas pour créer un personnage, c'est d'identifier sa texture vocale. Et puis, c'est de cette façon que vous constituez les traits qui vont l'identifier. Par exemple, pour Gotti, quand il est en train de mourir, il a une voix un peu gutturale qui est dû à sa maladie et ça c'est des choses qu'il faut arriver à créer, à identifier, à créer et la voix évidemment c'est très important et encore plus quand vous utilisez des accents.
My question is, your career is paved with an immense amount of really
tout au long de votre carrière, vous avez joué dans des films dont la bande son, dont la musique a influencé des générations. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré sur le plan musical et dans votre jeu d'acteur? Prenons La fièvre du samedi soir. Avec Michael Jackson, c'est le plus grand album de l'histoire de la musique. C'est un mélange des Bee Gees qui écrivent une musique pour ce film particulier et de certaines chansons qui soulignent le sentiment de ces scènes. C'est essentiel. Donc, la musique dans un film représente au moins 40% de l'impact d'un film. Imaginez un homme et une femme sans la musique. Imaginez La fièvre du samedi soir sans musique. Grease est différent. C'est une comédie musicale. Mais il y a tellement d'exemples extraordinaires dans lesquels la musique a élevé le film, a élevé les aspects visuels. S'il y a des réalisateurs, il y a beaucoup de réalisateurs. Je vous garantis que si vous n'accordez pas une attention suffisante à la musique et au lien de la musique avec les aspects visuels, eh bien, vous allez perdre une grande partie de l'impact sur le public. Parfois, il est préférable de ne pas avoir de musique. Mais si vous mettez de la musique, choisissez la meilleure musique possible. Et là, votre film ira jusqu'à la Lune. C'est essentiel.
Hello, I'm a young filmmaker from
Bonjour, je viens d'Ukraine, je suis une jeune réalisatrice. Ma question est la suivante. Si un jeune réalisateur vous demande de jouer dans un court-métrage et sans budget, eh bien, là, je répondrai que ça dépend si le sujet me plaît. Si la vision du réalisateur me plaît, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je n'ai pas de critères particuliers sur ce que je veux faire, je ne veux pas faire. Tout dépend de l'inspiration que je ressens. Si c'est un court-métrage, quel type de court-métrage s'agit-il? Quel est le message? Quels sont les personnages? Quel est le contexte? Toutes ces questions-là comptent. Je ne dirais pas forcément oui, mais s'il y a un contenu dans lequel je crois, alors pourquoi pas?
My name is Raymond Malinga.
Je m'appelle Raymond Malinga. Mon frère Robin Malinga est avec moi ici.
I'm an animation director from Uganda.
Je suis un réalisateur de films d'animation. Je viens d'Ouganda. C'est une question très importante que je souhaite poser au nom de tout le monde ici, je crois, au moins dans mon pays. C'est très simple. C'est important pour moi. Je viens d'un pays où il est très difficile d'atteindre votre niveau. Rien que d'être ici, c'est fantastique. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un comme moi? Comment arriver à votre niveau? En tant que réalisateur, qu'acteur, comment arriver à votre niveau? J'aimerais bien un jour être à votre place, représenter l'Ouganda.
Well, you can be sitting here right now if you want.
Vous pouvez venir vous asseoir ici tout de suite si vous voulez.
You know, as I said earlier to this young lady, that
comme j'ai dit tout à l'heure à cette jeune femme, c'est votre voyage personnel. C'est le cheminement que vous façonnez et c'est le cheminement de personne d'autre.
Your focus on what you want.
Continuez
à
être focalisé sur les objectifs que vous fixez et vous verrez qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous et puis quelque chose de bon pour les autres. Et si vous mélangez les deux, vous en arriverez à la conclusion que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut communiquer là-dessus. C'est à vous de trouver votre voie. Des réalisateurs m'ont autorisé à être responsable du personnage que je crée. Eh bien, c'est la même chose pour vous en tant que réalisateur. Vous allez trouver votre voie.
Hello, I'm very excited to ask you a question.
Bonjour, je viens d'Algérie. Je suis assez ému de vous poser une question. Je m'appelle Mohamed. Vous êtes un grand acteur. J'ai vu tous vos films. J'ai une question à poser sur les prix. Si je demande aux Algériens ce qu'ils pensent de vous, ils diront tiens, il a gagné un Oscar. Mais pardon, il n'a pas gagné d'Oscar. Mais vous n'êtes pas gêné de fait de ne pas avoir eu d'Oscar? Je vais vous dire, je suis fier d'avoir eu deux nominations aux Oscars. C'est tout aussi bien que d'avoir eu l'Oscar. J'ai eu trois Golden Globes, huit nominations, j'ai eu des prix de la critique. J'ai l'impression d'avoir reçu trop de prix. Donc je ne suis pas du tout préoccupé par tout cela, je n'y pense même pas. Et je dis cela avec respect, car il suffit de bien faire son travail. Et le prix vient après. S'il vient, c'est formidable. Mais je n'ai pas du tout l'impression d'avoir eu trop peu de prix, de ne pas être assez reconnu. J'ai l'impression d'avoir été reconnu d'une façon qui me convient tout à fait, parce que je crois avoir fait un bon travail. Je ne fais pas cela parce que je rêve de quelque chose d'autre. Alors, la dernière question, parce qu'il faut libérer la salle. Tout d'abord, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Quelle est votre plus grande crainte lorsque vous arrivez sur un plateau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mine votre confiance en vous? Je ne sais pas, lorsque j'arrive sur un plateau, si j'ai le sentiment que je suis arrivé là où je dois aller pour ce personnage, alors je n'ai aucune crainte. Là où j'ai des craintes, c'est quand on n'est pas préparé. Mais si on est préparé, si on s'est préparé et que rien ne change, que le réalisateur a gardé ce qui était prévu, et même s'il change ce qui était prévu, eh bien, on peut s'adapter, on peut changer telle ou telle partie du script. Mais si j'ai le sentiment d'être là où je dois être, je n'ai pas de crainte. C'est donc quelque chose de très individuel. Est-ce que vous vous êtes préparé? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes prêt? Et là, il n'y a pas d'incertitude.
Please give a great warm applause to Monsieur John Travolta.
Thank you.
C'était le NRV France Inter plus de monstres du cinéma. Deuxième épisode, la masterclass de John Travolta. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, une soirée frisson avec le réalisateur John Carpenter, maître de l'horreur.